On va laisser la place tout de suite à nos collègues de Calibre 58 qui sont prêts à bondir sur les micros, hein, prêts à vous donner le meilleur d'eux-mêmes pour l'émission qui commence d'ici 15 petites secondes, le temps de lancer le générique. Un grand merci à toi Cédric pour la régie et un grand merci à Alex.
Bonne soirée à tous.
Et puis merci à Stéphane Gauthier d'être venu nous parler de l'EAB. On vous dit dans une semaine à 20h.
Streets out. Come on with it. Star Trek. Here's his haters. I'm doing deals like the majors. Ice cream sneakers. I signed my first skater. So you could pay three and buy yourself some babesters. Bulletproof on the t-shirts because they hate us. Do like Snoop say step your game.
Vous avez survécu à la tempête qui s'est abattue sur nos têtes ces deux derniers jours. Mais peut-être avez-vous perdu. Qui a l'oden, qui a un foulard, qui a un bibi. La vie s'avère parfois impitoyable. Mais pour l'heure, vous êtes à l'abri du vent, affalé dans un canapé. Vous avez longtemps hésité entre le silence et votre émission favorite. Et puis, chassez le naturel et les idées noires. Un détour par votre cuisine, quelques glaçons qui s'entrechoquent dans un verre. Vous êtes bien à l'écoute de Radio G sur le 101.5. Et vos complices de toujours sont avec vous. Mais il y a une défection de dernière minute. Où est Linda, si ce n'est au fin fond de son lit, en quête d'un repos salvateur? Aujourd'hui, vos complices sont donc Luc, Toups et votre serviteur zélé Julien. Bonjour les amis.
Bonjour.
Ou peut-être bonsoir.
Bonsoir. C'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre. Et maintenant, générique maestro.
Thank you.
12 octobre. Gina Kane s'étira dans son siège côté hublot. La porte du long courrier se referma et le personnel de bord se prépara au décollage. Elle poussa un soupir de soulagement. La place du milieu de sa rangée de trois était vide et le resterait durant le vol Hong Kong-New York de 16 heures sans escale. Par chance, le passager installé côté aller avait pris un somnifère et fermait déjà les yeux. Il dormirait sans doute pendant au moins 8 heures. Parfait. Elle voulait avoir le temps de réfléchir tranquillement, sans être obligée d'échanger des banalités. C'était ses parents qui auraient dû faire ce voyage. Ils s'étaient enfin décidés après plus d'un an de tergiversation. Ils l'avaient appelé tout excité pour lui dire qu'ils avaient déposé un acompte et étaient prêts pour l'aventure. Elle se souvenait de sa mère disant, comme cela lui arrivait souvent, « Nous voulons le faire avant d'être trop vieux ». L'idée que l'un et l'autre puissent devenir vieux lui était totalement étrangère. Ils étaient tous deux grands amateurs de plein air, de randonnée, à pied ou à vélo. Mais au cours du dernier check-up de sa mère, le médecin avait décelé une anomalie. Un vrai choc. Une tumeur cancéreuse inopérable. Elle, qui avait été l'image même de la santé, était morte en 4 mois.
Il ne vous aura pas échappé que nous n'avons plus de reine du suspense américaine. Mary Higgins Clark s'en est allée à l'aune de ses 92 ans. Elle a connu le succès en France en étant l'égérie de la collection Special Suspense d'Albin Michel. C'était en 1977. La parution de La Nuit du Renard, un roman multiprimé par les critiques spécialistes des littératures policières. Depuis, bon an, mal an, seule ou avec sa fille Carole, elle nous faisait découvrir une nouvelle intrigue. Son drame, c'est peut-être d'avoir commis très tôt un excellent roman. La reine du suspense a parfois un peu déçu, mais elle était toujours là. Vous écoutiez un extrait de En secret chez Audiolib, traduit par Anne Damour et lu par Marie Bouvet, celle-là même qui avait déjà lu My Absolute Darling de Gabriel Talent. Donc, Mary Higgins Clark n'est plus. Special Suspense, la collection, est orpheline. Et Lisa Gardner vient tout juste de reprendre une couronne qu'il va falloir mériter. Reine du suspense aux États-Unis, c'est comme reine du crime en Angleterre. Mais quittons ces tristes contrées et ces tristes pensées pour nous rapprocher de la poésie musicale avec la baronne du jazz. Alors, Toups, comment ça jazz ?
Ça jazz swing, ça jazz sérieux. Alors, ça jazz. Il y a une fois où je vous avais demandé si vous étiez calé en titre de noblesse. Et on avait vérifié tous ensemble qu'on était absolument nuls, qu'on n'y connaissait rien. Et moi, j'avais dû réviser avec Wikipédia et d'autres sur les titres de noblesse, parce qu'effectivement, c'est un monde à part. Hein. C'est pas le monde des 99% des gens qui peuplent ce pays. Et là, le titre « La baronne du jazz » fait écho à ces titres de noblesse que certains s'attribuaient. Tu avais, directement, on tape dans les légendes, ce qu'on appelle les légendes du jazz. Les King Oliver, les Duke Ellington, les Comte Basie, les Barons Mingus. Et là, c'est la baronne du jazz. Quand on parle de légendes du jazz, on a toujours tendance à se dire Louis Armstrong. T'en connais, toi, des légendes du jazz
Comme ça, là, au débeauté oui, moi, je dirais bien Thelonious Monk, parce que c'est un pianiste que j'adore.
Oui.
Michel Petrucciani.
Est-ce que c'est une légende du jazz? J'ai l'impression que les légendes du jazz, c'est...
Parles de légende.
Oui. Tu sais, régulièrement, ils nous font paraître des compilations qu'ils appellent légendes du jazz, et c'est à chaque fois des gens qui sont très très morts.
Vraiment?
Oui,
mais
très.
Michel Petrucciani est très mort. Hein.
Oui, c'est... oui, quoi que. Hein.
Des gens genre Billie Holiday ou...
Oui, c'est ça, des gens de... quand ça remonte à plus de 50 ans, quoi. Enfin, bref.
Des légendes du jazz vintage, en fait.
Oui,
c'est ça.
C'est ça. Bon, j'ai envie de commencer cette chronique parce que je vais enfin la commencer. Ça, c'est la bonne nouvelle de la soirée quand
même. Oui,
parce
que c'est pas commencé.
Non, non, je vais la commencer par une citation d'un philosophe vu placardé sur un muret à Nantes. Attention, j'ouvre les guillemets. Erratum. Contrairement à ce qui a été annoncé, la femme n'est pas l'avenir de l'homme. Qu'il se démerde. Fin de citation. Et pourtant, pas de légende de jazz sans muse, sans inspiratrice, sans chef opératrice, sans cadreuse, protectrice, bienfaitrice et mécène. Entre parenthèses, pas de Louis Armstrong sans Lil Harding Armstrong, sa femme, la pianiste qui lui a appris à structurer ses solos. Je ferme la parenthèse. Pas de Thelonious Monk sans Baron de Königswarter.
Baron de ?
De Königswarter. La femme qui donna asile à des dizaines de Charlie Parker, de Bud Powell, qui, entre parenthèses encore, seront avec Dizzy Gillespie les trois principaux créateurs du mouvement bebop, qui a été une révolution du jazz dans les années 50. Cette femme portait le nom d'un papillon de nuit, un mythe, car cette espèce était inconnue en Europe avant que son père en fasse la découverte, et lui donne le nom à elle de Panonica. Entre parenthèses, Panonica, c'est le nom du célèbre club de jazz de Nantes.
De Nantes.
Panonica, c'est pas vraiment un papillon, en fait. C'est une mythe, en fait. C'est un mythe, mais c'est une mythe. Alors, pas vraiment un papillon, mais c'est, ah, si, c'est un papillon. C'est pas une horreur, c'est juste une différence. Et ça, c'est ce que lui avait dit son père à Panonica quand elle était petite. C'est une très belle BD que nous avons là. J'ai été conquis par le travail de ce tandem Stéphane Tamayon et Priscilla Orviller. Et on peut vraiment parler de conquête parce que j'y suis vraiment allé à reculons. En effet, je connaissais déjà un rayon sur le sujet. En tant que fan absolu de Thelonious Monk, je me sentais sur ma défensive. Juge est parti et prêt à défendre mon héros pianiste autiste qui avait failli casser la gueule à Miles Davis. Vous allez me dire pourquoi il avait failli casser la gueule à Miles Davis.
Pourquoi il avait failli casser la figure à Miles Davis?
Il s'est fait casser la figure par Miles Davis?
Non, non, non. Sinon, Miles Davis serait mort, je pense, ce jour-là. Il avait failli lui casser la gueule parce que, en fait, il s'était arrêté. Il s'était arrêté de jouer en plein solo sur une séance, un concert enregistré. Le producteur avait eu l'idée d'associer Miles Davis à Thelonious Monk. Miles Davis ne supportait pas Thelonious Monk et Thelonious Monk arrivait à supporter Miles Davis, mais c'était sans plus. Et Thelonious Monk, j'ai dit tout à l'heure, un pianiste autiste, il avait de ça quand même. Et à un moment donné, au moment de son solo, il commence son solo, il fait une grille, il fait une deuxième grille et à partir de la deuxième grille, il s'arrête. Il s'arrête subitement, la rythmique continue et il y a une grille entière qui passe, une deuxième. Il ne joue plus. En fait, il entendait toute la musique. Il trouvait ça tellement beau qu'il estimait que ça servait à rien de la jouer. Eh oui, Thelonious Monk.
C'est la différence entre nous. Hein.
Oui, oui, bah oui, c'est
oui,
ça.
Parce que nous, on continue à faire de la musique comme tu parles.
Alors, bref, du coup, c'était plutôt... j'aimais pas cette BD. C'était le graphisme qui me plaisait pas. Après, c'était la narration qui me plaisait pas. Alors qu'en fait... Le graphisme est superbe, la narration est tout ce que j'aime, c'est simple et efficace. Alors le truc, c'est qu'il y a plein d'allers-retours avec la mémoire recomposée du bouquin que j'avais lu 20 ans avant et qui s'appelle Monk, un bouquin d'un certain Laurent de Wilde, pianiste français. Je vous recommande fortement si le sujet de Thelonious Monk vous intéresse. C'est paru en 97, mais je pense qu'il y a eu des rééditions, c'est chez Gallimard. Un pianiste, écrivain et philosophe, d'ailleurs, maîtrise ou prof de philo, je crois, enfin, agrégé de philo, oui, c'est ça. Oui, je vous le recommande aussi chaudement que je recommande cette BD, parce que finalement, il faut que je le dise, que je la recommande chaudement, cette BD.
Oui.
Il y a un moment, il faut le dire dans une chronique.
Hein. Oui, sois enthousiaste.
Oui, c'est vraiment, vraiment superbe BD.
Dessiné par qui?
Par Priscilla Orviller. Ah. On en apprend pas mal sur le lourd passé de la baronne et héritière Rothschild. C'est la découverte aussi des dégâts collatéraux de l'éducation stricte des jeunes filles rangées, dont le but dans la vie ne peut pas être autre que de trouver un mari aussi riche qu'elle, lui faire des enfants et attendre qu'ils rentrent du travail. Ça, c'est pas leur but à elles. À proprement parler, c'est le but qu'on leur fixe. Et là, je me sens obligé de vous conseiller encore un ou deux livres par Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot.
Encore eux ? Et tu les as pas déjà conseillés une fois ?
Non, jamais.
Ah bon ?
Ah, peut-être, peut-être j'ai eu l'occasion de parler de Panique dans le 16e, mais là, ça serait pour conseiller Sociologie de la bourgeoisie, ou bien Dans les beaux quartiers, ou encore Les ghettos du Gotha. Bref, la baronne Panonica de Königswarter était en contradiction totale avec... Et finalement, c'est fou comme on revient toujours à l'actualité avec ces histoires qui ont plus de 50 ans. Quel est le but de l'argent pour un Carlos Ghosn moyen ? Ben c'est l'argent, ce qui explique qu'il n'en aura jamais assez. Alors que pour la dite Panonica, l'argent c'était un outil, un levier, un cric roulant pour déplacer des montagnes. Et il y en avait quelques-unes à déplacer. Cette femme qui a réussi à imposer sa différence et son indépendance, qui a quand même été persécutée pendant la Deuxième Guerre mondiale, j'ai oublié de préciser qu'elle était juive. Juive, riche, femme, intelligente, indépendante, blanche, belle. Donc elle a subi toutes les formes de racisme. Cette femme qui s'est engagée, qui a piloté des bombardiers, qui a eu besoin de se rapprocher du cœur même de la recherche et de l'accomplissement de la différence, le cœur de la création par les dingues et les paumés, souffleurs d'étoiles dans les yeux des boîtes de nuit, les créateurs de la grande musique classique du XXe siècle, le jazz. La préface est belle comme un poème et une ode à la fois. Elle est signée par Francis Marmande, grand écrivain du jazz en France et également contrebassiste. Oubliez le ski, ça c'était avant. Prenez le temps de savourer cette BD. Votre meilleur fauteuil n'attend que cela, près de votre poêle à bois, flamme verte, qui ne sert qu'à votre confort par ce mois de février, soi-disant rigoureux. On écoute le titre « Panonica ».
Vous êtes sur Radio G sur le 101.5 FM. Vous pouviez entendre le piano de Thelonious Monk, grand jazzman devant l'éternel. Et si vous avez les glaçons qui continuent de s'entrechoquer dans votre verre, vous avez bien de la chance, c'est moi qui vous le dis. Parce qu'ici, on a le gosier un peu sec, il faut bien le dire encore plus. Après ce morceau, Toups, je voulais revenir sur la bande dessinée pour que tu nous redonnes titre, nom de l'auteur et
alors,
éditeur.
Le titre, La Baronne du Jazz, par Stéphane Tamayon et Priscilla Orviller. C'est paru chez Steinkiss.
Et tu nous la recommandes chaudement ?
Aussi chaudement que le verre de...
Qui n'est pas là.
Et
mais dry, par contre, sans les glaçons.
D'accord. Et de toute évidence, d'écouter un bon petit morceau, si possible, de piano sur ce...
Ah ben oui.
Eh bien moi, je vais vous parler d'un petit ouvrage intimiste paru à la Manufacture de Livres de Thierry Crouzet. Et là, on va changer radicalement d'orientation. Fini la mélancolie, fini cette musique-là, c'est une toute autre musique, puisqu'on va parler un tout petit peu de guerre d'Algérie, ce qui est beaucoup moins drôle. Mon père se tueur, c'est le titre de l'ouvrage et c'est une manière pour son auteur de tuer son propre père en une espèce de mise en abîme. Thierry Crouzet débute sur cette phrase affolante pour un enfant, « J'ai toujours eu peur de mon père ». Alors bien sûr, il y a la fascination transmise de génération en génération pour les armes à feu, l'instinct du chasseur qui n'opère pas que la nuit. Mais il y a surtout le fait que l'homme a participé aux événements. Les événements, vous vous rappelez, la guerre d'Algérie. Alors là, il faut bien vous dire que question littérature sur la guerre d'Algérie, on est un peu à la ramasse. Les Américains, eux, ont très vite écrit sur les guerres du Vietnam et de Corée. Étrangement, nous, c'est comme si on en avait tellement honte de cette guerre qu'on n'avait pas voulu la mettre par écrit. Il y a bien sûr eu Didier Denac, c'est son roman « Meurtre pour mémoire » qui relatait le massacre du 17 octobre 61,
magnifique,
1961.
Magnifique roman.
Oui, mais c'était à Paris, et pas vraiment dans cet ancien département français qu'était l'Algérie. Bien sûr, on a tous en mémoire « L'étranger » d'Albert Camus et le brillant « Meursault contre enquête » de Kamel Daoud, j'allais dire « contre attaque », c'était très très moche. Et puis, on se souvient de la sortie d'Alexandre Jardin contre son père. Son père qui avait fait la guerre d'Algérie. Thierry Crouzet, ce livre, et tente de nous donner un portrait fidèle de son paternel. Et comme il ne veut pas que le moindre affect puisse modifier ce portrait, il le surnomme Jim, son nom de guerre. Alors, à quel moment la violence devient inhérente à votre identité ? Dans le cas de Jim, tout bascule non pas lors de son premier mort, mais lors d'un guet-apens tendu par les Français contre des Algériens du FLN à la frontière marocaine. À partir de ce moment-là, plus rien ne sera comme avant, et le tireur d'élite, conducteur de blindés, fera comme tout le monde, il méprisera ce qu'il entend exterminer. Pourtant, il y a cette insouciance et la présence de Jeanne. Pourtant, il y a ces amitiés perdues. Le style de Thierry Crouzet, comme par un fait exprès, hésite entre celui d'Albert Camus, avec un style sobre, efficace et mélancolique, et celui de Jean-Patrick Manchette, avec ses phrases courtes lancées en un staccato meurtrier et ses précisions balistiques qui font froid dans le dos. Le livre raconte comment on perd son humanité et comment on devient un tueur froid qui fait peur même des années plus tard à son fils. Et l'on comprend que pour Thierry Crouzet, le père n'a jamais été un héros, et qu'aujourd'hui, plus qu'hier, il a ressenti le besoin de le tuer. C'est à la Manufacture de Livres, et si vous souhaitez en découvrir un peu plus sur l'Algérie, la guerre, la politique, les atrocités, alors Thomas Cantaloube et Frédéric Paulin sont les deux autres noms que vous devriez noter dans votre petit carnet. Fin de cette chronique qui n'est pas très 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 belle.
Non, si, elle est belle. Elle n'est pas très sexy, mais elle est belle.
Et je sais. Allez, on va reprendre un petit peu de bonne humeur. Vous écoutez toujours Radio G, toujours sur le 101.5 FM. Et maintenant, profitant de l'absence de Linda, nous allons enchaîner sur un débat bande dessinée western. Donc, deux bandes dessinées atypiques sont à notre menu. avant de laisser la parole à Luc, je les présente. Muertos, de Pierre Place, chez Glénat. Une réflexion sur le pouvoir, à l'instar de la ferme des animaux d'Orwell, mais dans un monde fantastique, horrifique, au Mexique, au début du XXe siècle, avec des hordes de... Je sais pas, ça, j'hésite entre le vampire, la goule, enfin des morts vivants.
Des classiques morts vivants.
Mmh. Voilà, oui. Je retrouvais plus le nom morts vivants. Pourtant, c'est vrai qu'il est bon. Enfin,
il suffit à lui-même.
Hein. Oui, c'est ça. Il veut dire ce qu'il veut dire, quoi. Et une autre bande dessinée western, Mondo Reverso, d'Arnaud Le Goueffec et Dominique Bertaille, un western qui retourne et le genre et les clichés, puisque les femmes prennent la place des hommes et réciproquement. Il y avait déjà eu des westerns de la Blaxploitation avec inversion homme blanc, homme noir. Je pense à ceux de Fred Williamson. Quelques incongruités cinématographiques avec des frics. Alors, vous en pensez quoi de ces deux bandes dessinées ?
Est-ce que je peux me permettre de préciser un petit détail sur les films Blaxploitation dont tu viens de parler en, en parlant d'une inversion homme blanc, homme noir ? Il y a quand même eu, dans l'histoire des États-Unis, il y a quand même eu des shérifs qui étaient noirs. Et ça, c'est pas du cinéma, c'était vrai.
Oui, non, mais là, je parlais vraiment d'inversion. C'est-à-dire que c'était. Ils allaient chercher des esclaves blancs qui s'étaient évadés.
Ah, d'accord. Une inversion à la Mel Brooks, du type le shérif est en prison.
Oui, avec musique des années 70, d'accord. Un truc qui passe très mal aujourd'hui. Voilà. Mais je note qu'il y avait un marshal noir et je le savais d'ailleurs.
Eh oui. Non, mais le shérif est en prison, c'est vraiment très très drôle. Pour ça aussi, parce que c'est du...
Je vois qu'on est en plein cœur du débat. C'est bien, parce qu'on parle de cinéma, mais on est là pour parler de BD, non ? Dis-moi,
Rappelle-moi. Oui, mais alors, on pense plan séquence, on fait des raccourcis, des fois abscons. Oui. Allez, retournons à nos Muertos de Pierre Place chez Glénat.
Malheureusement, on va parler bulle, mais toujours sans champagne.
Ouais, puis de toute façon, j'aime pas le champagne, donc ça tombe très très bien. Ouais. J'allais dire bulle de Pierre Place. Non, c'est Muertos de Pierre Place. À nouveau, it is not my cup of tea. Moi, les morts vivants, je crois que j'ai jamais vu un film de morts vivants. C'est extraordinaire, non ? Et pourtant, j'ai l'âge. Hein.
T'as même pas vu un tout petit film de morts vivants avec une musique entraînante ?
Rien. Rien.
Jamais un petit film de 15 minutes avec Michael Jackson ?
Oui, d'accord. Bon, d'accord. Alors, bon. Et celui-là, il était bien. Celui-là, il était nickel chrome et tout.
Michael Jackson, c'est une légende.
Oui. Donc, c'est un film. C'est une poursuite. J'ai pas été dans l'histoire parce qu'elle m'a d'abord elle surgit de enfin les morts vivants surgissent le scénario est plutôt bien conduit jusqu'à son terme moi là-dessus il y a pas de souci mais en fait c'est le postulat d'une on peut dire qu'il s'agit d'une vengeance hein, qui se met en place mais la BD est belle. Magnifique, elle est vraiment extraordinaire. La Glénat a fait un travail superbe au niveau du toucher du papier. C'est une BD qui est assez importante. Je ne sais plus combien elle fait de pages, mais elle est vraiment très importante. Il y a un très beau noir et blanc. Voilà, donc il n'y a que des qualités. Mais en fait, moi, je suis cette histoire de mort-vivant. Je n'y adhère pas.
Mais on peut entendre ça, que tu n'y adhères pas. En revanche, tu as raison de noter le noir et blanc, qui déjà, en BD, quand même, est symptomatique de quelque chose. C'est très casse-gueule, le noir et blanc. On réussit, on ne réussit pas. Corto Maltese, on l'oublie, il est en noir et blanc. Il n'était pas coloré à l'origine. Il vaut mieux voir les bandes dessinées de Corto Maltese en noir et blanc qu'en couleur. Et là, le noir et blanc, il s'impose un peu, puisque on est entre le mort et le vivant, donc entre le blanc du vivant et le mort du noir, j'ai envie de dire. Toups, je voyais que tu regardais le nombre de pages et que tu te replongeais dans cette bande dessinée.
Ah ben non, c'était juste pour préciser, 152 pages effectivement, c'est pas rien pour une bande dessinée. Et Moi, j'ai beaucoup aimé. Tu vois, dans ce que tu as dit, Luc, tu as dit « on peut dire qu'il s'agit d'eux ». Et effectivement, il y a un moment où on finit par dire « on peut dire qu'il s'agit d'eux ». Parce que, en fait, le scénario est tellement bien foutu qu'on ne comprend pas très bien où est-ce qu'il veut nous emmener. On ne comprend pas. Et on est obligé de suivre. Et on est obligé de suivre et quasiment jusqu'au bout. Cette histoire abracadabrantesque avec beaucoup de morts et du sang partout, c'est de la boucherie, c'est d'une violence incroyable. Alors moi j'ai le genre mort-vivant, c'est ça a jamais été mon truc non plus. Je pense à part le film de Michael Jackson, enfin de John Landis avec Michael Jackson, je pense que j'en ai pas vu non plus. Et pourtant, cette BD m'a vraiment beaucoup plu parce que c'est super bien dessiné. Et c'est surtout... En fait, c'est pas tant le dessin. Le dessin, c'est en plus. C'est le plus. Mais c'est tellement bien raconté. C'est magnifiquement bien raconté.
Il y a une, on notera, alors bon, c'est Pierre Place donc, qui s'inscrit dans, dans la logique de la bande dessinée, puisqu'il fait, on trouve régulièrement des performances dans les bandes dessinées, et souvent les performances dans les bandes dessinées, c'est la page avec la vignette unique sur la pleine page. Et là, c'est pas une page, c'est une double page, c'est la page 102-103, où il y a une seule image qui est d'une puissance phénoménale, c'est des chevaux qui galopent, c'est vraiment extraordinaire. C'est magnifique. Voilà, donc graphiquement, moi, j'ai rien à dire. Le scénario est plutôt bon. Aux deux tiers de l'histoire, on commence à comprendre ce qui s'est joué. Voilà, jusqu'à la fin. Après, la fin est très étrange, puisqu'elle aurait tendance à laisser penser qu'il y a un tome 2. Enfin, vu la manière dont la BD se termine, on pourrait supposer qu'il y a... alors, soit il y a un tome 2,
Ou pas. Ou pirouette,
et
cacahuète.
Et s'il n'y en a pas, c'est d'une noirceur totale.
On va privilégier la noirceur totale.
Non, moi je ne dirais pas ça. Je pense que s'il n'y en a pas, c'est juste qu'il fallait finir et qu'il y a un moment où tu n'as pas 50 000 solutions pour finir quand tu es arrivé à un tel paroxysme.
Ouais. Moi je disais juste ça pour passer à la deuxième bande dessinée en fait, parce que je vois le temps qui défile.
Ouais.
Mondo Reverso donc d'Arnaud Le Goëfleck et Dominique Bertaille. Moi j'avoue hein, j'ai une petite faiblesse pour Arnaud Le Goëfleck. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette bande dessinée? J'ai très peur, Luc, vas-y.
Tu as raison d'avoir peur. Ouais, tu as totalement raison. Hein, cette histoire inverse. D'abord, il y a un mensonge. Cette BD est basée sur un mensonge. On nous vend en quatrième de couverture la question du genre qui permet de changer le genre. Une BD sur le genre, non, ça ne change pas le genre. À part le fait que les femmes jouent, du moins dans cet univers-là, soit aient des attitudes d'hommes, moi, je... Voilà,
c'est fait pour interloquer. Enfin, c'est comme les hommes qui mettent du rouge à lèvres et qui tournent des spots publicitaires pour dire... voilà, enfin, c'est dans un monde de violence, c'est fait pour inverser les rôles et montrer que cette violence... voilà, si vous la subissez, elle est un peu différente. Enfin,
Bah, l'éditeur parle d'un western transgenre. Enfin, pour moi, c'est pas, il ne suffit pas que des femmes soient habillées en hommes, jouent du flingue, baissent comme des hommes, maltraitent leur alter ego, c'est-à-dire les hommes. Il suffit pas de ça. Pour moi, enfin voilà, moi après, autant je peux être élogieux sur Muertos et le dessin de Pierre Place, autant là, moi, je suis moins emballé par la profusion, le délire, le côté presque délirant de ce personnage qui boit la potion pour changer de sexe et qui se retrouve dans une position pour le moins déroutante, c'est le cas de le dire. Voilà, mais je suis pas très 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 client. Voilà, je l'avoue.
D'accord. Moi, je trouve que c'est une honnête BD de genre sur les genres et qui joue avec les codes du western un peu en appuyant. Alors, c'est vrai parfois avec un peu de lourdeur Mais c'est ce qui rend sympathique ces archétypes du western. C'est pour ça que moi j'aime bien le western de série B. Pour moi, c'est une bande dessinée de série B, peut-être B prime.
Série Z. Hein, on est dans la série Z là, vraiment. Hein.
J'adore la série Z également. Oui. Tous, ton avis?
Effectivement, c'est très très bien dessiné, mais on s'aperçoit qu'effectivement, le dessin ne fait pas tout. Il faut quand même. Alors, moi, ce qui m'a manqué, c'est un scénario. J'ai un pitch, j'ai un postulat de départ et j'ai pas de développement. C'est ça qui. Après, on a un exercice de style à partir du pitch, mais on n'a pas de scénario à proprement parler.
Le scénario, il est très complexe. Moi, j'ai eu du mal d'abord à reconnaître les personnages, mais c'est normal, comme c'était pas des hommes, je peux pas les reconnaître. Hein. Ça me trouble trop dans mes habitudes. Progressivement, ça y est, on arrive à voir les deux protagonistes, donc l'homme et la femme, et puis cette affaire de vol de potions magiques, enfin un peu comme dans Astérix, hein. Voilà, cette quête de la potion, on arrive à le voir, mais c'est vrai, t'as raison, enfin moi je suis d'accord avec toi, comme moi j'ai pas été emporté dans l'histoire, finalement j'ai tourné les pages, quoi, finalement, voilà, jusqu'au bout.
Ah non, oui, non, moi j'ai suivi l'histoire, j'ai trouvé intéressant de renverser, de me dire tiens, voilà ce que peut penser une femme, et après je me suis dit mais c'est pas possible. Il m'a semblé voir à un moment donné une scène où il faudrait que je vérifie. J'ai eu l'impression qu'il y avait une inversion mais qui était ratée en fait, et je me suis dit écoute, c'est pas possible, et d'un seul coup j'ai regardé qui avait écrit ça, parce que j'avais pas regardé au départ, et je m'aperçois que c'est deux hommes, effectivement, c'est bon.
Eh bien, nous allons...
La même histoire racontée par des femmes, je pense que ça nous raconterait d'autres choses.
Ah, certainement. Peut-être. Certainement. Tu soulèves un lièvre.
Tout à fait, oui.
Donc, je vous rappelle ces deux bandes dessinées, Muertos de Pierre Place chez Glénat, et Mondo Reverso d'Arnaud Le Gouefleck et Dominique Bertaille chez Fluide Glacial. Et maintenant, un peu de littérature parlée.
Ceux qui pensaient que la guerre commencerait bientôt s'étaient lassés depuis longtemps, Monsieur Jules le premier. Plus de 6 mois après la mobilisation générale, le patron de la petite bohème, découragé, avait cessé d'y croire. À longueur de service, Louise l'avait même entendu professer qu'en réalité, cette guerre, personne n'y avait jamais vraiment cru. Selon lui, ce conflit n'était rien d'autre qu'une immense tractation diplomatique à l'échelle de l'Europe, avec des discours patriotiques spectaculaires, des annonces tonitruantes, une gigantesque partie d'échecs dans laquelle la mobilisation générale n'avait été qu'un effet de manche supplémentaire. Il y avait bien eu quelques morts ici et là, davantage sans doute qu'on ne nous le dit. Cette agitation dans la Sarre en septembre, qui avait coûté la vie à 200 ou 300 bons hommes, mais enfin, c'est pas ça une guerre, disait-il en passant la tête par la porte de la cuisine. Les masques à gaz reçus à l'automne, qu'on oubliait aujourd'hui sur le coin du buffet, étaient devenus des sujets de dérision dans les dessins humoristiques. On descendait aux abris avec fatalisme, comme pour satisfaire à un rituel assez stérile. C'était des alertes sans avion, une guerre sans combat qui traînait en longueur.
Linda n'est pas avec nous exceptionnellement, et si elle nous écoute, nul doute que cet extrait du dernier roman de Pierre Lemaître, Miroir de nos peines, lu par l'auteur pour Audiolib, lui fera office de léger remontant. Pierre Lemaître continue d'explorer la défaite française qui lui avait valu son succès et le prix Goncourt avec Au revoir là-haut. Mais mon petit doigt me dit que Linda nous a quand même concocté un petit quelque chose qui a à voir avec Denis Robert, rencontré il y a peu à l'occasion du festival Angevin Premier Plan.
Aujourd'hui, chronique spéciale, une heure de ma vie avec Denis Robert. Tadam ! Bon, je fais la mariole, mais j'étais vachement impressionnée en fait. Denis Robert, the figure du journaliste indépendant. Rappelez-vous, après avoir été longtemps à Libé, son enquête sur Claire Trim. Clearstream, la chambre de compensation qui fait disparaître des transactions financières. Tu me vois ? Tu me vois ? Tu me vois plus ? Tu me vois plus ? Tu me vois ? Tu me vois plus ? Tu me vois plus ? Tu ne me vois plus ? Je disparais et hop, je peux cacher ma caillasse peinard. Du grand banditisme international en col blanc. Oui, c'est... Bon, alors ça a été quand même une soixantaine de procédures judiciaires contre lui, hein, contre Denis Robert. Je suis super Clearstream et je vais te niquer la gueule, Denis Robert. Tiens, prends ça, tiens, m'en fous, je suis libre. Ah, mais tu vas te la fermer, oui. Ça a duré une dizaine d'années, il a fini par avoir gain de cause, mais à quel prix, hein? Bon, monsieur Denis Robert... Toujours aussi indépendant depuis que vous êtes directeur du Média ?
Il y a 7 mois ou 8 mois, j'avais été interviewé par le Média de l'époque Haut-de-Lancelin. Ils m'ont appelé en me disant « on est dans une mer de noir, enfin il y a une nouvelle crise, est-ce que tu peux nous aider ?» Moi au début je ne pensais pas du tout à un job. J'ai essayé au début, parce qu'au Haut-de-Lancelin je n'avais rien contre elle, moi. J'ai essayé de l'appeler et elle était complètement énervée contre moi. Puis elle a commencé à dire... qu'elle savait très bien que c'était Mélenchon et Gérard Miller qui m'avaient envoyé là, alors que la veille, je n'étais même pas au courant, que je ne connais pas Mélenchon. Enfin, j'ai dû le rencontrer une fois et je ne connais pas Gérard Miller. Donc, c'est les salariés du Média qui étaient un peu au bout du rouleau et qui sont quand même 27, qui sont venus me chercher. Ils avaient les comptes à zéro. Et puis, ils avaient une campagne de presse contre eux, orchestrée par cette dame, disant que la France insoumise, qu'on était lié à un parti politique, etc. Ce qui est archi, archi faux. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 2 ans, quand le Média a été lancé par Sophia Chikirou, qui est la compagne de Jean-Luc Mélenchon, et qui était chargée de la communication de la France insoumise. Et effectivement, les militants de la France insoumise ont donné beaucoup d'argent et tout ça, en se disant on va créer un média de gauche sur Internet pour un peu contrebalancer. Et ils ont embauché des journalistes, ils ont commencé à faire leurs 20 heures et des choses comme ça. Et c'est vrai que le lien de Chikirou avec Mélenchon, la France insoumise, pouvait prêter à interrogation, on va dire. Mais au bout de 2-3 mois, elle n'arrivait pas à gérer des journalistes. Hein. Elle a été dégagée et remplacée par Lancelin. Et donc moi, je récupère une situation. Je ne savais pas où je mettais les pieds, mais j'affirme qu'aujourd'hui, le mode de financement du Média en fait sans doute l'organe de presse le plus libre de France, quoi, puisque je ne dépends que des 18 000 personnes qui donnent de l'argent tous les mois et des donateurs. Depuis que je suis arrivé, il y a eu plus de 500 000 euros de dons. Sans compter les cartes bancaires. Donc tous les mois, il y a à peu près 100 000 euros de cartes bancaires. Il n'y a pas d'autre financement. Il n'y a jamais eu un centime d'argent public, jamais de publicité.
Mais alors, la défiance actuelle à l'égard des journalistes, pour vous, c'est justifié ou c'est pas justifié ?
Ouais, je trouve qu'en ce moment, il y a un vrai problème en France, quoi. Enfin, depuis Macron. Hein. Oui, sur les lois, le rapport à la justice. Il y a il y a plein de problèmes, mais il y a aussi un problème de qui fabrique l'information et comment s'informent les gens. Et donc, c'est de plus en plus dur d'être journaliste parce que c'est une profession qui se paupérise. Et les chaînes d'infos, toute info, appartiennent toutes à des groupes pour qui l'information n'est pas une priorité. Ce qui est prioritaire chez eux, c'est leur business, quoi.
Bon, mais c'est justifié ou c'est pas justifié ?
Et donc, on est sous-informés. Et alors, l'information, les gens, là, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une grande défiance qui s'est installée. Et donc, les gens, maintenant, les gens qui ont un peu de recul vont s'informer sur des sites alternatifs, quoi, comme, un peu comme nous, qui ne sont pas mainstream. Mais on grossit en audience, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais la presse, d'ailleurs, la presse papier, à part Le Monde, qui, avec sa nouvelle formule là, d'abonnement, commence à... Ça commence à aller un petit peu mieux pour eux, mais d'une manière générale, ça plonge de partout.
Hein, c'est justifié ?
Aujourd'hui, pourquoi on est intoxiqué par la propagande de cet État qui devient de plus en plus un État policier ? C'est parce que les sources de tous ces journalistes de BFM, ITélé, LCI, et même de France Télévisions, et même l'AFP, c'est le ministère de l'Intérieur. Et ces journalistes sont quasiment tous monosources, c'est-à-dire que le ministère de l'Intérieur donne des chiffres, Et s'ils veulent continuer à obtenir ces informations-là, en étant privilégiés par rapport à d'autres, bah, ils sont obligés de d'être gentils avec leurs sources.
Donc, justifié.
C'est de plus en plus difficile de faire des documentaires un peu indépendants, puis qui remettent en question le pouvoir. Surtout que le CNC, maintenant, est repris en main, lui aussi, par la Macronie. C'est-à-dire que cette tendance de privatisation de tout, de Radio France, de tout ça, elle existe aussi dans le documentaire. Il y a encore des moyens de s'informer, hein, c'est pas... Mais bon, il y a quand même une information qui s'uniformise.
Oui, c'est ça, c'est fermé. Donc là, on retrouve la même obligation que pour les médias, c'est directement les gens qui vont donner...
Bah voilà, du crowdfunding. Et ce qui nous a permis après de trouver des fonds. Donc on doit avoir 700 000 euros de budget pour la très grande évasion. Mais on va faire des éditions étrangères, on va le sortir en DVD, on fait un gros film de cinéma. On espère aller à Cannes au mois de mai.
Une dernière chose, un conseil sur un livre, un film où vous trouvez que la figure du journaliste elle est juste, enfin un truc qui vous porte,
moi, l'autre film que j'aurais choisi, c'est The Insider, le film de Michael Mann qui s'appelle Révélation en français. C'est l'histoire d'un journaliste qui enquête sur l'industrie du tabac et sur Philip Morris, et ça raconte comment les ingénieurs chimistes qui travaillait à fabriquer les flowers, les goûts des nouvelles cigarettes, savait pertinemment qu'il créait de l'accoutumance chez les fumeurs en introduisant des substances chimiques qui développaient des cancers.
Bon voilà, et puis après on est repartis tous les deux à la gare, enfin lui pour prendre un train, et puis moi, Manu, t'entends ?
On a entamé cette émission avec la disparition de Mary Higgins Clark, mais j'ai vécu à titre personnel un véritable cataclysme culturel avec la mort de l'immense Kirk Douglas. C'est bien simple, Kirk, c'est l'avant-dernière pierre angulaire du cinéma de l'âge d'or de Hollywood. La dernière étant, quelle est la dernière pierre angulaire de l'âge d'or de Hollywood encore vivante ?
Une femme,
Marlon Brando.
Une femme, Marlon Brando n'est pas mort, c'est vrai, mais non, cette femme, c'est Olivia de Havilland. Mmh. Voilà. Kirk est mort, la fossette ne tremblote plus avec cette morgue caractéristique. Il ne reste pas moins des souvenirs immémoriaux, Luc. Voici un petit panaché. Est-ce que vous reconnaîtrez de quoi il est question ? Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose ?
Je donne ma langue au chat.
Il va bientôt falloir mettre sur pause quand même.
Ah, je donne ma langue au chat aussi.
Alors, si je vous dis un banjo, une carapace de tortue,
Ça me dit quelque chose, mais ça va pas arriver.
20 milieux sous les mers, mes amis.
Mais non. Ah mais oui, si. D'accord. Mais oui, bien sûr, oui.
Allez, on continue.
Alors.
Oh là là.
Excusez-moi, là, il y a un petit.
Ah mince. Oui, là, nous y sommes. Ragnar.
Les Vikings.
Les Vikings, bravo.
Bravo tous.
Ragnar, c'est quand il est chez lui. Ah, et là ?
My heart feels empty too.
Il aime bien chanter, hein.
That is full.
Cette chanson
Make
tout, je vais te plaît. Alors, vous donnez votre langue au chat ? La captive aux yeux clairs.
On peut pas être au top tout le temps. Hein.
Le prochain, je pense que vous arriverez à le reconnaître. Je ne sais pas pourquoi.
I bring a message from your master, Marcus Licinius
Spartacus.
Drossus.
Bien joué. Je pensais que tu aurais besoin d'autres indices qui arrivent. His most merciful excellency, your lives are to be spared. Slaves you were, and slaves you remain. But the terrible penalty of crucifixion has been set aside on the single condition that you identify the body or the living person of the slave called Spartacus.
Oui, l'immense Spartacus, le génial Spartacus de Stanley Kubrick. À voir et revoir.
I'm Spartacus.
I'm Spartacus.
I'm Spartacus.
I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus.
I'm Spartacus.
I'm Spartacus. I'm Spartacus. I'm Spartacus.
Surtout en ces temps
aujourd'hui.
Surtout en ces temps très troubles, mais j'ai été en train de m'immiscer avec le feuilleton radiophonique que nous allons retrouver enfin après une petite interruption. C'est parti, c'est Reniflar & Co, mes amis.
Reniflar & Co. Mise en scène de Linda Gonne. Avec les voix de Laure Gélin, Toups Bébé et Linda Gonne. Voix du générique, Elouane.
Nous sommes dans le cabinet d'avocat Reniflar & Co. Maître Reniflar et sa secrétaire, Mademoiselle Fossette, entendent quelqu'un approcher derrière la porte.
Cambiando il governo, niente cambia lassù. C'è un poco nello stato dove i soldi vanno giù. Svalutation.
Svalutation. Mi demandé de me dire chi arrive dans le couloir.
L'amore mio, non capisco perché. Cento per inferio, posso fare, non c'è
valutation.
Ma regarde, c'est censé l'ascenseur, t'es content, non?
Qu'est-ce que vous chantez?
Je sens que le gouvernement se goinfre et que la crise est là.
Mais que c'est faux.
Amore mio, non capisco perché. Cento per inferio,
posso fare,
non c'è valutation.
Amélie, stop. Voulez-vous arrêter ce boucan?
Mais c'est pas du boucan, c'est sainte.
Alors faites plutôt du boucan. D'ailleurs, pourquoi chantez-vous?
Pour tuer le temps.
Drôlement efficace comme arme. Qu'avez-vous fait de votre semaine?
Ça c'est les marsans de glace.
Pardon?
C'est pas facile à dire. Ça c'est les marsans de glace. J'ai bien me réchauffé.
Je croyais vous avoir dit de chasser les ambulances.
Si. Elles vont trop vite.
Oh, c'est le bouquet. Écoutez, Ravelli, si vous ne me trouvez pas de clients, on va se faire éjecter d'ici.
Bon, ça ne fait rien. Ouais, je n'aime pas beaucoup ce boulot.
Ah non. Je ne plaisante pas, Ravelli. Vous allez vous planter dans la rue et ramasser un client, même si vous devez y laisser votre peau.
Mais planter sur les trottoirs et atteindre les clients, ah bravo, hein? Bravo! Et si ma femme, elle me voit?
Comment? Vous êtes mariée? Où est votre femme?
Ma femme? À la maison!
Ah oui?
Les femmes, c'est à la maison.
Vous n'avez pas de maison.
Ah oui?
Eh non.
Ce n'est pas de maison.
Ben non.
Ah moi si, ce n'est pas de maison. Ce n'est pas des femmes alors.
Eh ben non.
Ah, et si ce n'est pas des femmes, c'est descendre dans la rue alors.
Ah bah oui.
Donc il faut que ça descende dans la rue, là.
Eh oui.
Donc là, j'y vais, alors.
Dépêchez-vous.
Ma, questa Italia qua, se lo fuore sa, che ce la farà. E il sistema c'è, quando pensi a te, pensa. Anche un po' per... Ah, les pétitions. On va bien donc avec moi, les pétitions. Bah oui, c'est tout seul aussi, là. Voilà, personne ne nous aime de toute façon. Allez, viens, je t'amène avec moi. Anche un po' per me.
À suivre.
Quelques brèves. Nous avons accueilli cette semaine dans les trois écoles d'un grand de Le Fresne-sur-Loire l'auteur jeunesse Colline Pierret pour la deuxième étape des ateliers d'écriture organisés par l'association Masque Noir autour de trois thèmes d'actualité: alimentation, écologie et noir social. Excusez-moi. Ce week-end se déroule le festival Niorté Regard Noir avec une belle brochette de romanciers que nous ne pouvons tous citer. Il y a pêle-mêle Yann Manouk, Rosa Montero, Frédéric Paulin, Thierry Crouzet, Jean-Christophe Tixier. Décidément. Nous vous parlerons la prochaine fois de la manifestation Polarisez-vous qui se déroulera tout le mois de mars à Brissac-Loire-Aubance et à laquelle nous sommes partenaires. Luc, un petit mot sur le sommaire d'Entre les pages de demain ?
Oui, demain sur Entre les pages, donc on aborde à Entre les pages le monde des livres en Anjou. Et demain, on accueille un auteur, alors un jeune auteur, mais un auteur très âgé, puisqu'il a plus de 60 ans maintenant. Et ça fait partie de la catégorie des auteurs que moi j'ai classé dans ceux qui rentrent en littérature par effraction, c'est-à-dire qu'ils écrivent sans se rendre compte qu'ils écrivent et qui peut-être à un moment donné peuvent semer le trouble. Donc ça, voilà, il a écrit un livre tout à fait étonnant sur la problématique de l'homosexualité féminine chez une adolescente. Moi, je sais que le livre m'a touché, j'avais envie de rencontrer ce monsieur. Et puis, le 22 février, on enregistre l'émission en public à Saumur, à la médiathèque de Saumur. Donc on invite toutes les personnes de Saumur, les Saumurois qui nous écoutent, à nous rejoindre à la médiathèque. On recevra les éditions Balise et Comète. Et puis l'auteur... j'ai oublié son nom.
C'est un drôle de nom pour un auteur.
Non, c'est une poétesse. C'est la première fois que nous allons recevoir une poétesse dans l'émission Entre les pages. Voilà, c'est le programme à venir.
Eh bien, c'est un programme...
L'auteur s'appelle Alban Gelé. Merci, ma mémoire.
Voilà, tout l'honneur est sauf. Eh bien, merci pour ce sommaire fort alléchant. Je rajouterai juste que j'ai croisé à un grand, un auteur de western anglais, et que je crois qu'on l'entendra aussi. J'ai donné beaucoup de travail, je crois, à l'émission pour faire un montage digne de ce nom.
Effectivement.
Et j'en suis pas peu fier.
Tu verras le résultat demain.
Eh bien, on vous laisse dans un monde de caresses toutes métalliques. La semaine prochaine, place à nos amis imaginaires. Au revoir, les amis.
Au revoir.
Au revoir.
Et pensez à Linda.